allons ensemble méditer sur un extrait de l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, versets 1 à 16. Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, dit saint Paul, moi qui suis prisonnier. Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers. Et c'est lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs et chargés de l'enseignement. Et cela afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère, pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Aussi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs astuces, à fourvoyer dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance, pour se construire lui-même dans l'amour. Alors acclamons cette parole du Seigneur et laissons-la pénétrer au fond de notre cœur tout au long de ce partage. Eh bien, mes chers amis, je vous souhaite bon après-midi et je ne sais pas comment vous remercier, non seulement d'avoir attendu mon invitation, mais de vous être offert pour venir cheminer avec moi. Au moment où je m'apprête à partager un des enseignements, sinon celui qui a le plus marqué ma vie, non seulement depuis une dizaine d'années, mais je dirais même toute ma vie sacerdotale. Et le fait que vous soyez ici m'enthousiasme d'autant plus que je sais que déjà vous êtes au courant de la plupart des idées que j'aurai à partager cet après-midi. Et je sais également que vous en êtes à ce point convaincu que vous êtes membre vous-même de petites communautés chrétiennes. Mais votre présence ici cet après-midi, dans ce foyer qui nous accueille et où vont s'enregistrer ces séries de cassettes, eh bien, me réconforte énormément et je demande au Seigneur de vous le rendre. Un autre avantage de votre présence, c'est que ça va me permettre de partager ça là un peu comme si on était assis au coin du feu, tout bonnement, très simplement, sans emphase, sans me laisser emporter et essayer de convaincre, mais simplement, en illustrant d'ailleurs qu'est-ce que c'est que d'être communautaire. C'est de partager eh bien, je vais partager avec vous un enseignement complet sur ce que j'ai appris concernant le communautaire chrétien. Cet enseignement a été donné en primeur, mais seulement en résumé, à deux occasions au cours de ce mois. D'abord au 6e rassemblement des travailleurs de la santé qu'organise le mouvement Lumière et Paix à Montréal et au Congrès national de Acte Canada, tenu à Lévis, en face de Québec. Et ces deux congrès avaient précisément comme thème les petites communautés chrétiennes. Alors, mes chers amis, installez-vous bien. Si vous voulez vous mettre les pieds sur les poufs, ne vous gênez pas, voulez-vous bercer. Et je vous demanderai juste une chose, là, ayez en main ces feuilles sur lesquelles se trouvent une quinzaine d'illustrations dont je me servirai au cours de ce partage. Avec les feuilles mises à votre disposition et ces illustrations synthèses, symboliquement, je vous confie au début de cet entretien quatre grenades. Quatre idées grenades. Mais soyez pas inquiets, elles ne sont pas armées, elles ne sont pas chargées. Et nous allons les prendre l'une après l'autre et les charger au cours de ce partage. Et à la fin, vous serez libre d'enlever le cran de sécurité. Vous savez qu'une grenade, ça comprend habituellement un corps en fonte. C'est gros comme une poire, à peu près. Puis ça contient une charge explosive, un détonateur, puis un anneau de sécurité. Mais à chacun, il appartiendra à la fin, à la conclusion, de tirer ou non sur l'anneau de sécurité s'il désire laisser exploser le tout. Pour pas que vous soyez encombrés, puis soyez prêts avec ces grenades sur vos genoux, là, je les ai reproduits à l'illustration 1 sur le texte que vous avez. Et ça vous permettra de les garder à vue. Ne les perdez pas de vue, ils sont importants, toutes les quatre. Et voilà, je vous avertirai d'ailleurs au moment où je placerai les détonateurs. Alors, à ce moment-là, vous surveillerez ça de plus près. Alors, allons-y. Je vous fais part immédiatement des quatre idées grenades dont il sera question au cours de cet enseignement. La première est celle-ci. Tout chrétien et toute chrétienne doit absolument être éminemment communautaire. Ça va? Une deuxième idée grenade, on ne devient vraiment un ou une communautaire qu'en acceptant de partager avec les autres, aller et retour, ce que nous sommes ou ce que nous devenons jour après jour grâce à lui, à l'œuvre en chacun et chacune de nous. Troisième idée grenade, pour apprendre ou réapprendre, on va voir que parfois il faut réapprendre, à devenir un vrai ou une vraie communautaire, comme chrétien, chrétienne, il n'y a qu'un moyen, c'est vivre une authentique expérience de petite communauté chrétienne vivante en Église. Ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend à l'expérience. Quatrième et dernière grenade, et tenez-vous bien, il est faux de croire et d'affirmer que tout cela, là, c'est beau en théorie, mais c'est bien difficile en pratique. Je vous le dis, et l'expérience de nombreuses personnes, et la vôtre d'ailleurs, vous pourriez en témoigner au cours de cet enseignement, l'expérience du vécu communautaire qui a été bien compris et bien pratiqué démontre au contraire que c'est plus facile et agréable de vivre ainsi que de s'en abstenir. Alors, allons-y. Passons à la première de nos idées grenades. Et je la récapitule tout en plaçant ce schéma sous mes yeux. La voici. Tout chrétien et toute chrétienne doit être éminemment communautaire. Sinon, ce chrétien ou cette chrétienne a beau se vouloir renouveler et dans le Seigneur, il demeure un chrétien ou une chrétienne inachevée. Pas encore vraiment d'église. Et son christianisme va se ratatiner tôt ou tard. Alors, voyons ça un peu plus dans le détail. Quand je dis tout chrétien, toute chrétienne, je dis absolument tous, sans exception. Les fidèles, les prêtres, les évêques, les religieux, les religieuses, notre Saint-Père le Pape, tout le monde qui se dit chrétien ne peut pas s'en tirer sans être ou devenir éminemment communautaire. On est vraiment un chrétien ou une chrétienne pure laine, et on atteint vraiment la maturité chrétienne qu'à cette condition. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en pratique, quand on se sent encore, ou qu'on est encore seul au monde, spirituellement parlant, on est seulement au point de départ du christianisme, mais pas du tout au point d'arrivée. Vraiment, j'insiste là-dessus, plus on se croit, plus on devient, plus on se dit, plus on se veut chrétien, chrétienne, plus on doit révéler son esprit communautaire. Alors, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un autre dessin en couleur. Vous serez d'accord avec moi que c'est pas toujours le cas. Beaucoup ne le sont pas encore. Et beaucoup qui l'ont été ont cessé de l'être parce qu'ils n'ont plus fait les efforts constants nécessaires. Et pour être et pour rester communautaire chrétien, il faut être capable de résister aux forces intérieures et aux forces extérieures qui sont dissociantes et qui sont la suite du péché. Quand les gens me disent, mais oui, mais sur quoi basez-vous votre affirmation? Je n'ai pas toujours le temps de leur donner toutes les motivations, mais je vais prendre le temps cet après-midi de donner 5 grands motifs que nous avons à devenir de vrais, vrais de vrais communautaires. La première raison, ben, Dieu, dans sa Trinité, est éminemment communautaire. On sait que dans les trois personnes divines, surabondent et se consomment dans la surexcellence la vie et la béatitude d'un Dieu parfaitement un. Donc, trois personnes qui sont tellement communautaires, si je peux ainsi dire, qu'ils ne forment qu'un. On sait que le Père, il y a un Père qui engendre éternellement le Fils, un Fils qui a été engendré, qu'on appelle le Verbe de Dieu, et le Saint-Esprit, qui est une personne distincte, qui n'est pas... qui n'a pas été créé, qui est incréé, mais qui procède du Père et du Fils comme leur amour éternel. Eh bien, si à l'origine de toute vie, de tout l'univers, c'est un Dieu de communauté, si je peux ainsi dire, eh bien, c'est réconfortant pour nous. Et c'est pour nous l'occasion de s'imaginer qu'il a voulu laisser cette empreinte sur tout ce qu'il a créé. Un deuxième motif, ben, c'est le commandement nouveau que Jésus nous a donné. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Souligne là, un. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé les uns les autres. À ceci, c'est au singulier, à ce signe, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples et vous avez de l'amour les uns pour les autres. On sait bien que Jésus aurait pu nous en donner 3-4 commandements nouveaux. Il aurait pu nous donner plusieurs signes. Il aurait pu dire, bon, ben, aimez-vous les uns les autres, là, un commandement, c'est un des signes. Priez ensemble les uns les autres. Prophétisez, ça sera un autre signe. Activez-vous, là, faites-vous aller dans les œuvres. Mais non. Tout juste avant son arrestation, vers la fin de sa prière sacerdotale, il situe le tout. Et là, là, juste au moment où il va être arrêté pour être condamné et crucifié le lendemain, s'adressant à son père, il dit ceci, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, nous, la Trinité. Moi en eux et toi en moi. » Voyez-vous là, il nous greffe à la Trinité communautaire. « Moi en eux et toi en moi. » Et comme nous, nous sommes un, que soit un comme nous. Donc, la communauté divine, en fait, devient notre modèle. Et pourquoi? Il dit, cette unité-là, ça va permettre au monde de reconnaître deux choses. Que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, là, il pense le message d'amour. Père, tu m'as aimé, bien, là, si eux autres donnent ce témoignage, ils vont savoir que moi, j'ai dit vrai quand j'ai dit que tu m'as aimé. Puis ils vont être crus, parce que l'amour qu'ils ont entre eux, ça va venir de nous. Et les gens vont savoir que toi, Père, tu les aimes comme tu m'as aimé. Donc, voyez-vous, là, tout l'appel, il ne peut pas être plus clair que ça. C'est une responsabilité incroyable pour nous. Mais, on le sait bien, il ne peut pas nous avoir demandé quelque chose qui n'était pas réalisable. Si on ne le réalise pas, on trouve ça compliqué, puis on va en parler à la quatrième idée Grenade, c'est simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé, on n'a pas encore saisi d'une façon claire et aussi simple que possible la beauté de cet appel. Alors, le commandement nouveau, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Jésus ne nous aurait pas proposé un signe qui était à peu près sûr qu'on allait manquer, qu'on ne pourrait pas donner. Alors, prenons là quelques secondes pour laisser ça entrer en nous. Vous savez, on rêve pas, c'est pas seulement des rumeurs qui paraît que le Seigneur aurait dit en quelque part « Tâchez de vous aimer », c'est pas de l'illusion, c'est pas de l'utopie. C'est bel et bien son commandement et son désir. Et comment est-ce qu'on peut croire qu'un tel commandement soit réalisable pour nous? C'est parce que, pour prendre le langage populaire, il y met le paquet. C'est rendu possible par son amour de père, par ses mérites de fils. Et par son action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et les premiers chrétiens l'ont compris, ils l'ont pris au sérieux, puis ils l'ont vécu. Puis hélas, nous autres, en 1983, on est encore dans beaucoup de milieux, même les milieux du clergé, des communautés, à se faire dire, « Ah oui, c'est beau, c'est ce que vous dites, c'est vrai, c'est bien en principe, mais c'est pas en pratique, en voulant dire, tourner la page. » Mais non! J'essaierai de le démontrer plus loin. C'est plus compliqué de vivre sans mettre en pratique ce commandement nouveau. C'est pas tolérable dans la vie quand on n'est pas communautaire. On vit dans un monde de fous et puis il n'y a pas de signification possible, il n'y a pas moyen à moins d'être éminemment communautaire. Un troisième motif, c'est que l'Église est une communauté. Le Seigneur a institué l'Église précisément pour nous aider, nous guider et réaliser cette éminente mission d'unité, chacun de nous, entre nous, et avec la communauté divine. Et c'est comme ça qu'on appelle l'Église le corps vivant du Christ, le corps mystique de Jésus, la communauté des fidèles, la communauté spirituelle, le peuple de Dieu en marche. On en parle de l'Église, germe et prémisse du royaume de Dieu, etc., etc. Bon, alors je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail. L'Église est là pour précisément rassembler et animer et stimuler et soutenir tous ceux qui prennent au sérieux cet appel à être communautaire. Quatrième motivation, c'est qu'on s'en va vers la communion des saints éternels, qui est précisément la communauté des communautés, où on va connaître un partage infini, incessant, progressif de Dieu en nous et de Dieu entre nous. Quand saint Paul aux Corinthiens nous dit « À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors, au ciel, ce sera face à face qu'on va voir ce Dieu de la Trinité. » Et dans un peu plus loin, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28, « Dieu sera tout en tous. » Alors là-haut, on va être comblé. Puis on ne pourra pas faire autrement que vouloir vivre les uns pour les autres, les uns avec les autres. Puis nos sentiments vont être épurés à ce moment-là, puis vont être plus vifs, puis plus tendres, il n'y aura plus de jalousie, de mesquinerie, de rivalité, de comparaison. On baignera dans l'effusion de l'amour de Dieu. Et il semble-t-il qu'au ciel, on aura trois grands principaux sujets de conversation, je peux ainsi dire. Des sujets de joie à nous communiquer les uns les autres, à partager entre nous. D'abord, on va être parmi, c'est le cas de dire, de découvrir en direct l'infinie perfection et l'infinie béatitude de Dieu. Ça va être tout un spectacle, ça. Aujourd'hui, on a des petites idées, puis ça nous fait plaisir, puis ça nous remplit de bonheur, mais on voit le Seigneur, comme dit saint Paul, à travers le miroir. Là-bas, on va le voir face à face. Puis quand on va découvrir ça, pensez pas qu'on n'aura pas à raconter aux autres. Deuxièmement, on va posséder Dieu, notre souverain bien. Il a décidé qu'à ce moment-là, il va se laisser partager. Il va partager sa nature divine avec nous. Et on va sentir qu'auprès de lui et avec lui, on va être heureux pour toujours, qu'il n'y a plus rien d'autre qui va nous intéresser, tellement cette possession du bien souverain va nous combler. Et alors, évidemment, on va en jaser un coup, on va jubiler ensemble, on va célébrer notre bonheur éternel. Les psaumes, d'ailleurs, ceux-là, comme vous qui lisez le bréviaire, tout ça, vous le savez, des phrases comme « Je serai rassasié quand je jouirai de votre gloire », quand on reprend la phrase de David, « Je n'ai demandé qu'une chose, c'est d'habiter dans la maison de mon Dieu tous les jours de ma vie, afin de contempler les délices qui l'inondent, de voir la beauté de sa demeure. » Pensez pas que ça ne sera pas quelque chose. Et je terminerai avec un cinquième motif. Ici, là, je vous fais une confidence. Je n'ai jamais crié ça sous tous les toits parce que ce que je veux partager avec vous, là, ça nous est venu en petite communauté chrétienne en 1975 et 76. À travers certains messages, mais qui ont été discernés et priés longuement. Et un membre de notre équipe, Isabelle Gauvin, à ce moment-là, avait servi d'instrument du Seigneur pour nous éclairer là-dessus. Et ce qui nous est venu, c'est à ceci. Et c'est peut-être la première fois là, que je vais rendre ça public. Il nous a été clairement exposé que dès les années 84, 85 et 86, le Seigneur allait intensivement renouveler son Église. Si vous regardez la feuille, là, l'illustration numéro 2, parce que c'est presque une bombe, vous savez, puis c'est presque gênant pour moi de dire ça comme ça, là. Contrairement à ce qu'on pense, le plan du Seigneur, c'est de renouveler l'Église institution par son Église communion. Vous savez, le Seigneur a créé l'Église institution, donc le leadership, puis les charismes, et tout ça, pour entraîner l'Église communion. L'Église communion, c'est la communauté de tous les fidèles. Eh bien là, il semble que le Seigneur veut retisser l'Église communion d'une nouvelle fibre communautaire vivante. Et c'est le peuple de Dieu, reprenant sa composition communautaire au sérieux, c'est le peuple de Dieu qui va imposer à l'Église institution, avec toutes ses structures, ses organigrammes, puis ses façons de procéder, qui sont bonnes, mais qui semblent, auront besoin d'être purifiées. C'est l'Église communion. Et là, vous voyez, sur la petite illustration, je montre que les petites cellules là, qui sont dans l'Église communion vont se mettre à déverser dans les structures représentées plus haut là. La première fois de ma vie que j'essaye de faire un graphique des deux églises, je ne sais pas, j'ai jamais vu ça nulle part, mais en tout cas, ça rend l'essentiel de mon idée. Mais ce qui est important là, c'est que c'est par les hommes et les femmes qui sont dans l'Église, tant dans la hiérarchie ou dans les structures que dans le peuple des fidèles, mais par ceux et celles qui vont devenir communautaires et qui vont se regrouper communautairement, soit dans leur presbytère, dans leur couvent, dans leur évêché, dans leur curie romaine, dans leur paroisse, dans leur œuvre et tout ça, c'est comme ça que l'Église va renaître. Pour prendre des termes à la mode qui ne sont pas élégants, mais qui sont acceptés, semble-t-il, par l'Académie française, l'Église va donc être renouvelée pas tant par sa gradocratie que par sa méritocratie. Donc par ceux et celles qui vont la mettre en pratique. Pas ceux qui ont des grades nécessairement, sans les exclure. Et ça, sans vouloir faire de jeu de mots, chose qui nous est mise claire, en tout cas, si c'est la méritocratie au lieu de la gradocratie, c'est une façon polie pour le Seigneur de nous dire que c'est sûrement pas, en tout cas, par la médiocratie que l'Église pourrait continuer à fonctionner. Alors, c'est ça qui est notre défi. Et c'est au moment où on a découvert ça, c'est en 75, 76, c'est là qu'on a dit au Seigneur, ben, qu'est-ce que ça va être, ces petites cellules vivantes. On pourrait-tu avoir un preview? On pourrait-tu l'expérimenter en primeur? Puis, de quoi ça doit être composé? Et on a eu la possibilité de discerner ça, d'expérimenter ça pendant 7-8 ans. Et je vous le dis, aujourd'hui, tout ce que je partage avec vous autres, là, c'est pas de la théorie, c'est entré en moi par le vécu. Vous allez sentir d'ailleurs que je vais donner des principes, partager des convictions, mais surtout vous allez sentir que j'y crois, parce que j'ai pas appris ça ailleurs que dans l'expérience. Puis si c'est beau en principe, c'est encore plus beau en pratique. Mais l'important, c'est que on prenne ça au sérieux. On en a plein la bouche de l'expression communauté, communautaire, aimez-vous les uns les autres. Mais je suis donc impressionné et mal impressionné par l'espèce d'isolement, permettez-moi d'inventer le mot, d'étrangéité ou d'hermétisme qu'on rencontre souvent entre nous, les chrétiens. Bon, alors, je vais conclure ces cinq motivations-là en disant, un chrétien ou une chrétienne qui n'est pas éminemment communautaire, pour les cinq raisons que je viens de dire, c'est un chrétien et une chrétienne inachevée. Et le plus tôt, dès ici-bas, qu'on entre dans le style de vie communautaire de la future communion des saints, où nous irons terminer notre éternité, ou bien, je pourrais même dire l'inverse, le plus tôt qu'on laisse la communion des saints entrer en nous dès ici-bas, le plus vite on est heureux, comblé, efficace et entraînant. Bon. Eh bien, je pense qu'on n'aura pas besoin de débattre ça bien longtemps. Mais je suis obligé immédiatement de dire que ça ne se fait pas instantanément. Et d'une certaine manière, au point de départ, je suis d'accord avec les gens, c'est pas facile en commençant. Pourquoi? Parce qu'être communautaire, c'est partager. Permettez une gorgée d'eau. Et les gens partagent beaucoup plus facilement les choses extérieures à eux-mêmes. Regardez qu'est-ce qui se passe dans les réunions. Les gens vont parler de politique, ils vont parler de mode, de sport, d'éducation. Ou bien ils vont parler à propos des autres, leurs collègues, leurs conjoints, leurs enfants, les autorités. Donc, les gens aiment mieux parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils pensent. Mais ils n'aiment donc pas parler de ce qu'ils sont. Ou du moins de ce qu'on croit qu'ils sont. Puis quand quelqu'un arrive à parler de lui, là, bien, il aime mieux parler de ce qu'il fait, de ce qu'il sait, de ce qui lui plaît. Mais de ce qu'il est, motus. Puis quand on aboutit, puis on est prêt à parler de ce qu'on est, bien, on commence à parler plutôt de sa santé, de son travail, de ses états d'âme. Puis, si on se fait tordre le poignet, un petit peu de ce qu'on fait dans la vie spirituelle. Puis là, quand on parle du spirituel en dernier ressort, ben, c'est ce qu'on sait de spirituel. C'est ce qu'on pense de spirituel. De ce qu'on fait dans le domaine spirituel. Mais pas tellement de ce qu'on est spirituellement. Puis, si là, on finit par aboutir, ben là, on va dire qu'on est, ou ce que lui fait en nous. Bon. Mais pourquoi on s'est habitué à vouloir toujours partager à propos des choses qui sont pas, qui sont extérieures à nous, puis pas de ce qui se passe en nous? Je vais en donner peut-être 6 ou 7 explications. D'abord, la première, disons que le mot communautaire, là, partage, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas mal toujours resté assez vague. On en a eu plein les oreilles puis plein la tête depuis qu'on est au monde. On n'a pas eu tellement plein la vue. Ça nous a jamais été expliqué qu'il fallait, comme idéal, en arriver à partager ce que l'on est et ce qu'on est spirituellement au fur et à mesure pour mieux communier les uns avec les autres. On nous a plutôt servi toutes sortes de litanies, des belles qualités à avoir entre nous. Soyez patients, endurez-vous, pardonnez-vous, respectez-vous, écoutez-vous, aimez-vous, etc., etc. Mais faire communauté ou être communautaire, quoi au juste en quelques mots simples? Ben, faites toutes les recherches que vous voulez, vous ne le trouverez pas. Je lis constamment, là, de la part de théologiens, ou de la part d'évêques, ou de prêtres, ou de laïcs, puis tout ça, là, des beaux textes, là, sur le « aimez-vous les uns les autres », puis « formons communauté », puis « la communauté, c'est le royaume de Dieu », puis ça. On a un luxuriant, là, vocabulaire. C'est beau, on lit tout ça, on est tout pas en main. Puis à la fin, on se demande par quel bout commencer. Alors, ce que je vais partager avec vous, je ne me pense pas plus fin, mais je vais essayer de transmettre en termes simples ce que j'ai finalement cru comprendre. Une deuxième explication, c'est que pour partager qui on est, ben, capitaine Lapalisse nous dirait, il faut d'abord savoir qui on est. Je ne peux pas dire aux autres qui je suis. Si je suis encore à me demander, je suis un petit qui, moi? Je suis un petit quoi? Et pour plusieurs, c'est le problème. Ils ne sont pas capables de partager parce qu'ils ne sont pas présents à eux-mêmes ou à elles-mêmes, à ce qui se passe dans leur vie intérieure. Il y en a qui seraient des acteurs tout trouvés pour un film appelé Le Fugitif Perpétuel. Il se fuit consciemment ou inconsciemment sont toujours en visite. Ils ne passent jamais par chez eux, dans leur maison intérieure. Ils sont toujours hors d'eux-mêmes, dans tous les sens du mot. Puis ce qui est curieux, c'est que souvent, quand on les fréquente, on sait beaucoup mieux qu'eux et elles qui ils sont, puis qui elles sont, ce que le Seigneur fait en eux ou en elles. Quand on leur dit, c'est comme si on venait d'une autre planète leur apprendre quelque chose. Une troisième explication qui nous a rendu ça difficile, c'est que on a eu une drôle d'éducation, même bien intentionnée, mais quand même. Puis elle est paradoxale, l'éducation qu'on a eue. D'une part, elle était basée sur le partage. Mais le partage surtout de nos possessions. Dans la famille, là, il faut s'habituer à partager la nourriture, là. Partager les jouets. Les joies aussi, mais les locaux, partager son linge, partager ses disques, ses automobiles, les meubles. Puis dans les familles nombreuses, même les enfants étaient invités à partager le même lit. Mais malgré tous ces partages de possessions, de choses, très peu ou pas de ce qu'on est devenu, de ce qu'on est en train de devenir. Et on se faisait dire plus souvent qu'autrement de se mêler de ses affaires quand on se mêlait de la vie d'un autre, de ce qu'il était ou de ce qu'elle était. Et beaucoup ont quitté leur famille, se sentant, surtout, on voit ça dans les réunions de familles nombreuses, là, ils se sentent à la fois familiers et en même temps étrangers. C'est assez drôle. Ils se rappellent des souvenirs là, quand ils ont fait toutes sortes de séances, puis de fêter l'Halloween, puis ils ont partagé un tas de choses. Mais mon frère, ma sœur, des fois, ils découvrent 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Même chose peut arriver entre des conjoints, puis des parents, puis des enfants. Donc, très peu de partage de ce que j'appellerais du moi et du toi. Mais plutôt de ce qu'il y avait sous ce toit, ce même toit, sauf moi. Puis d'autre part, on a eu une drôle d'éducation, une éducation qui était stimulée par la compétition puis la comparaison des êtres. Ce que chacun était. On disait trop, ben un tel là, il est plus fervent que toi, puis une telle là est plus sérieuse, puis est plus dévouée, puis est plus donnée au Seigneur. Alors la conséquence inévitable, ben on s'est mis à loucher, à s'évaluer les uns par rapport aux autres. Et entrer dans la plupart de nos milieux, même d'église, ce que j'appelle la compétitionnite, la comparaisonnite, qui tue. C'est un virus, c'est deux virus ça, qui tuent le communautaire chrétien. Et qui va à l'encontre du Dieu qui délibérément nous a créés diversifiés. Il y a eu également une autre explication. Et plusieurs vont se dire dans le fond de leur cœur touchés. Il y a eu des expériences communautaires décevantes. Communauté matrimoniale, conjugale, familiale, religieuse, des œuvres. Où des gens ont voulu être communautaires, d'ailleurs sont entrés en communauté pour l'être. Puis ça a fini par des expériences traumatisantes. Ils en sont sortis ulcérés. Parce que sont entrés dans une association de personnes, l'expression est juste, mais une association qui a été dissociante de leur être. Alors, conséquence, en termes de baseball, on dirait fausse balle. Ben, ils ont décidé de se replier, de se méfier, puis fini de cœur ouvert, puis ma vie à moi tout seul, pas pour courir le risque d'être déçu encore une fois. Puis le « aimez-vous les uns les autres », ben ils ont classé ça, puis ils ont dit « ben, c'est beau en principe. C'est beau pour les chérubins, mais pas pour les chers humains. » Puis on en reparlera de tout ça en paradis. Et puis c'est comme ça que le dossier s'est fermé dans plusieurs vies. Puis quand ils se sont rassayés une deuxième fois, puis ça a été encore une fausse balle, eh ben là, ils ont décidé de laisser le bâton, d'aller s'asseoir dans les estrades. Il n'y a plus rien à faire. Alors, ça, c'est quatre explications, puis je pourrais m'arrêter là. Mais on pourrait en nommer d'autres. La confusion entre la fin puis les moyens. On a cru à la magie des mots puis des choses. On s'est dit, là, dès qu'il y a une vie de communauté, ben, il va y avoir une communauté de vie. Oh yeah! Comme si, mon ami, vas-y voir. Alors, on pensait que parce qu'on vivait dans la même maison, qu'on partageait feu et lieu, on partageait des idées, on partageait les mêmes prières, eh bien, tout ça, ça nous ouvre au communautaire, puis on devient, là, des gens en communauté de vie. La vie de communauté, c'est une chose. C'est censé conduire à la communauté de vie, mais ça n'a pas toujours marché comme ça. Il faut apprendre à devenir individuellement, ça a l'air drôle le jeu de mots que je vais faire, là, mais individuellement communautaire. Il faut que chaque individu apprenne à devenir communautaire. Puis ça se fait pas à ma place. C'est pas mon ami Pierre-Jean-Jacques ou mes amis Pierre-Jean-Jacques qui vont devenir communautaires à ma place. C'est à moi à le faire. Puis on ne le devient pas par procuration, puis on ne le devient pas automatiquement, puis on ne le devient pas de force. Je pourrais rapidement, avant de terminer ce côté de la cassette, dire, bien, évidemment, on suit ce qui n'aide pas. C'est le contre-courant torrentiel qui est bien d'actualité dans le monde, cet esprit de petit club, où les gens se regroupent par simple affinité, puis on rejette les diversités. On aime se regrouper avec les gens avec qui on a une identité d'idées, de goûts, de mœurs, de procédés, de valeurs, des idéaux. Ben, c'est en train d'empoisonner notre Église, puis de certains mouvements de renouveau. Il dégénère en syndicats de boutique, en syndicats fermés de bien-portants spirituels qui se replient sur eux-mêmes. Puis, finalement, une dernière explication. Malheureusement, malgré nos bonnes intentions, on n'a pas toujours pris les bons moyens. On pensait que dire aux gens, ben, la paroisse, c'est une communauté chrétienne. Eh bien, du jour au lendemain, quelqu'un qui n'est pas communautaire pour deux sous s'en va à paroisse, point deux.